Eh bien, je vais donner la parole à notre intervenante, Annick Gotland, qui est chercheuse à l'Ethnocafé, voilà, qui va nous parler de Carl Friedrich Graf Durkheim et le toucher de l'être. Voilà, c'est vrai que les philosophies orientales, ben mine de rien, ça inspire pas mal le projet. Entre le zen, le bouddhisme et le taoïsme, voilà, c'est des choses qui reviennent souvent. Et du coup, ben, je crois que c'est la première soirée qu'on fait sur ce thème-là. Et bien, Annick, je te laisse la parole.
Le silence est le seul bruit qui te ramène à toi et te dilate. Carl Friedrich Graf Durkheim commençait et terminait toujours ses entretiens au centre en Forêt Noire par quelques minutes de silence. Donc, nous allons, pendant quelques minutes, nous accueillir chaleureusement d'être là ce soir. Nous sommes en 1914. Graf Durkheim, officier du régiment royal d'infanterie de Bavière, part pour le front. J'avais 18 ans lorsque je suis parti pour le front lors de la Première Guerre mondiale. Je me souviens encore d'une attaque sur le mont Kemmel, pas loin de Verdun. Il fallait traverser avec mes soldats une centaine de mètres, ce qu'on appelait le rideau de bombe, un rideau de feu fait par les Français. Je me souviens encore qu'en pénétrant dans ce rideau de bombe, je disais à mes soldats: sautez dans un trou qui vient d'être fait, parce qu'il est improbable qu'un autre obus tombe dans le même trou. Plus tard, le moment où l'on se lance vers une mort presque certaine, à ce moment-là, on a le sentiment d'une vie extraordinaire. Au moment le plus dangereux et le plus proche de la mort, on se sent proche d'une grande vie. Cette rencontre avec la mort pendant la guerre de 1914-1918 a influencé toute ma vie spirituelle. Quand je parle de découvrir la vie, il ne s'agit pas de la vie dont on parle en général. C'est une autre vie. C'est la présence de l'être universel, l'être essentiel qui nous touche. Au moment où cet être nous touche, nous nous sentons enfants d'une autre vie. C'est ce problème qui est au fond le thème principal de tout ce que j'ai écrit et enseigné. Ainsi témoignait Graf Durkheim au cours d'un entretien réalisé avec Jacques Casterman en février 1980 à Tonnemousse, Ruth, en Forêt-Noire. De noblesse allemande, le comte Durkheim naît en 1896 à Munich. Ses aïeux sont chambellans des rois de Bavière depuis le XVIIIe siècle. Sa mère était protestante, son père catholique. Il passe son enfance dans les châteaux de Bassenheim, près de Coblence, et de Stengarden en Bavière. Destiné à la carrière militaire, ses études secondaires se concluent par un habitus militaire. Il participe à la Première Guerre mondiale en tant qu'officier du Régiment royal d'infanterie de Bavière. Il est envoyé sur le front de Verdun en 14-18. Il y restera jusqu'au jour de la capitulation de l'armée allemande. Pierre de Teilhard de Chardin était de l'autre côté du front. à son retour, bouleversé par l'expérience du front, de la mort au quotidien, Graf Durkheim refuse la reprise des affaires de famille. Je devais hériter d'une propriété en Bavière. J'étais l'aîné. J'adorais ma terre. Pour les gens du village, je devais être le prochain Durkheim qui la dirigerait. Mais voilà qu'après la guerre, j'ai reconnu que mon avenir n'était pas de devenir propriétaire, mais qu'il me fallait faire une autre route spirituelle, celle-là. Il commence des études de philosophie et de psychologie et devient ensuite professeur à l'université de Leipzig, à l'Académie pédagogique de Breslau et à l'université de Kiel. Nous commencions à cette époque, dira-t-il, à faire des méditations et des recherches tournées vers l'intériorité avec quelques amis. Ma première révélation eut lieu lors d'une visite chez un ami peintre. Ma future épouse prend un livre dans ses mains. C'est le Tao Te Ching de Lao Tzu, et elle lit le 11e chapitre. Alors tout à coup, j'ai eu ma première grande expérience de l'être. Tout avait changé autour de moi. Tout ce qui m'entourait était là, et en même temps n'était pas là. Il y avait autre chose à la place de beaucoup plus profond. Je sentais la tension entre le monde normal qu'on voit avec sa conscience conceptuelle et un tout autre monde. Le poète Novalis dit « Tout ce qui est visible est un invisible élevé dans un état de mystère. » Eh bien vraiment, je voyais cet invisible. C'était vraiment une chose extraordinaire qui a duré presque 2 jours. Je me sentais entre 2 réalités. En ce temps-là, je n'avais pas encore compris ce qui m'avait touché. Alors, j'ai commencé à lire des livres sur le bouddhisme, sur Maître Eckhart, sur Lao Tzu et Jung. En 1923, il prépare une thèse de doctorat sur la transformation de l'être et une thèse de psychologie analytique de situation. À 27 ans, il épouse Enja van Attenberg. Ensuite, Durkheim rencontre de nombreux écrivains et musiciens et des peintres, parmi lesquels Paul Klee, Kandinsky, Rainer Maria Rilke, Richard Wilhelm, autres philosophes et psychologues, dont Alfred Adler. En 1930, il termine ses 2 doctorats. En 1934, il a 38 ans, il est envoyé en mission en Afrique du Sud et participe à un congrès sur l'éducation et la culture. En décembre 1937, en vertu des lois de Nuremberg, il est révoqué de la fonction publique. Sa grand-mère était juive. Il part alors pour le Japon. Moins d'un an plus tard, il rentre en Allemagne pour assister au décès de son épouse et un mois plus tard à celui de son père. Il y retourne très vite au Japon. J'ai rencontré le zen, dira-t-il, en rencontrant des hommes du zen. Ces hommes me paraissent d'une authenticité extraordinaire. Toujours là où vous rencontrez le zen, il y a quelque chose de très fort. L'homme du zen est plein d'humour et plein de vie. Au Japon, Graf Durkheim va pratiquer avec différents maîtres le tir à l'arc, le dessin, bambou et cercle, et surtout le zazen, la méditation assise. En m'invitant en Extrême-Orient, dira-t-il, j'ai eu beaucoup de chance. On m'avait écarté de la vie politique. La plupart de ceux, plus tard, qui ont organisé le complot contre Hitler étaient des amis de ma famille ou des amis de l'université. Si j'étais restée en Allemagne, j'aurais sans doute connu leur triste sort. Rav Durkheim va donc passer une petite dizaine d'années au Japon. Et lorsque l'armée américaine débarque au Japon, Durkheim va se retrouver en prison avec les autres ressortissants japonais. Mais la plupart ont été libérés et rapatriés après quelques semaines d'incarcération. Mais, comme l'a expliqué l'officier, dira-t-il américain, comme l'a expliqué l'officier américain, lorsqu'on m'a libéré, 16 mois plus tard, il semble qu'on avait perdu mon dossier. Je vois encore cet officier assez ennuyé me disant « Mais c'est une lamentable erreur ». C'est ainsi que dans sa vie, on peut rencontrer l'absurde. Je suis cependant reconnaissant de cette longue période d'isolement et de solitude. J'ai pu méditer plusieurs fois par jour. Et c'est en prison que le tout simple a pris de l'importance à mes yeux. J'ai un jour posé la main sur le bois de ma table. Je suis resté ainsi longtemps sans bouger. En restant en contact avec ce bois, une demi-heure, parfois une heure, je me suis rendu compte que la profondeur d'une qualité conduit à la qualité d'une profondeur. Lorsque je suis rentré du Japon, Heidegger était très en vogue. Il avait des points communs avec ma philosophie. Entre autres, qu'il faut rendre transparent l'étang pour l'être. Il parle de l'être et de l'étang. La réalité, dans notre conscience objectivante, doit être rendue transparente pour tout ce qui est au-delà de l'étang. Je crois que l'existence vécue jusqu'au bout arrive à l'essence. Ce n'est que si vous vous enfoncez totalement dans ce que l'existence vous offre et vous ouvre, que vous touchez à l'être. Si vous évitez de vous plonger dans l'existence, pour quelque raison que ce soit, vous n'arriverez jamais à atteindre l'essence. De retour en Allemagne, Durkheim s'y retrouve aussi avec sa famille et avec Maria Hippius. Elle avait été son élève à l'université de Leipzig. Elle s'était installée à Tolmus et préparait un travail psychothérapeutique. Quelques mois plus tard, Graf Durkheim la rejoignit. Et en 1951, ils fondent tous les deux le centre de rencontre et de formation en psychologie existentielle, qui deviendra quelques années plus tard aussi un centre de thérapie initiatique. Une telle proposition prend tout son sens dans ces années d'après-guerre. Jacques Casterman témoigne. Lorsque je suis arrivé à Ruth en 1967, le centre de rencontre et de formation en psychologie existentielle et thérapie initiatique avait encore un caractère très intime. 20 ans plus tard, Rav Durkheim a 90 ans, il confiera, comme à ma première leçon, 20 ans plus tôt, Graf Durkheim m'accueille en se levant de son fauteuil. Sur un plan, il apparaît sans force. Et en même temps, sur un autre plan, émane de lui une force immense. Rav Durkheim lui dit « Il y a quelque chose de très beau dont je me rencontre maintenant. Je dois accepter, avec les gens qui viennent me voir, que les choses principales se fassent sans que je dise ou fasse grand-chose. Vous savez, à mon âge, il est important de s'occuper du passage de l'autre côté. Et du reste, c'est un travail intéressant. Il n'a rien à voir avec être triste ou heureux. Je passe beaucoup d'heures en silence, comme ça, assis sur ma chaise. En silence. Ce silence révélateur de l'être. La plupart des gens ne vivent pas dans leur peau, mais dans une couche de cellophane. L'homme qui n'est pas dans sa peau n'a pas de respiration. Aussi, le mot respiration gagne chaque jour de l'importance dans mon travail, dira Durkheim. Jacques Casterman dira « Jusqu'au bout, vous restez celui qui, en Occident, souligne le plus le chemin initiatique, et que ce chemin initiatique passe par un travail sur le corps. » « Oui, répond Rav Durkheim, parce que l'homme est son corps. On se demande encore parfois si l'expérience mystique est une expérience spirituelle ou corporelle. Cette distinction n'a pas de sens. Dans l'expérience mystique, c'est la personne tout entière qui est touchée. » Alfred Graf Durkheim s'éteindra en 1998 à 92 ans à Ruth. Donc, les expériences qu'a traversées Graf Durkheim: la guerre, son emprisonnement aussi, sa lecture passionnée et assidue de Maître Eckhart, l'ont préparé, dira-t-il, à la rencontre du zen lors de son séjour au Japon. Malgré les siècles et les abîmes qui nous séparent du bouddhisme, de Lao Tzu, de Maître Eckhart, on pourrait presque parler, en les évoquant, d'une fusion des horizons. En effet, tous s'adressent à des personnes qui vivaient dans un temps de profonde détresse. Et durant ces longues périodes d'épreuves personnelles et sociétales, la difficulté pour chaque personne est de trouver une parole suffisamment profonde et radicale pour être au niveau de cette détresse. On peut raconter brièvement l'histoire d'un homme contemporain qui fait une marche dans le désert et qui se perd. Il marche, il est assoiffé, il n'en peut plus, il est à bout de force. Et il voit une oasis et il se dit « Mais non, c'est une illusion !» Et il continue de marcher et il marche. Et le lendemain, on découvre son corps, il est mort, on découvre son corps. Et les témoins diront, c'était un homme qui vivait à l'époque moderne. C'est-à-dire, ne pas pouvoir voir où je peux trouver une source, une parole qui puisse me réconforter et m'apaiser. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la légende de Bouddha, je vais vous la dire, puisque donc le Zen sans a une racine proche avec le bouddhisme. Au nord-est de l'Inde, il y a un royaume. Le roi a un fils qui s'appelle Siddhartha Gautama. Vous pouvez lire le roman de S, la vie de Bouddha. Un jour, Siddhartha quitte le palais de son père. Il se rend dans la ville. et il y fait quatre rencontres. Un mendiant, expérience de la pauvreté. Un malade, expérience de la maladie. Une personne âgée, expérience de la vieillesse. Et un cortège funéraire, expérience de la mort. Il prend conscience que la vie humaine est souffrance. La vie est une expérience de la souffrance. Nous souffrons car nous sommes affectés. Le riche peut devenir pauvre. Le jeune deviendra vieux. Le bien portant malade. Et le vivant mourra. Siddhartha se demande, y a-t-il un remède à la souffrance ? Il quitte le palais et part dans le monde avec cette quête. Trouver une réponse à cette question. Il ne trouve rien. Il entre dans une forêt, s'assied auprès d'un arbre, près de l'actuel Bénarès, et décide de ne se lever que lorsqu'il sera éveillé, c'est-à-dire qu'il aura la réponse. Le 8e jour, avant le lever du soleil, il s'éveille. Siddhartha devient le Bouddha, l'éveillé. Il a trouvé la réponse à sa question. La cause de la souffrance, c'est l'attachement. La réponse est donc le détachement. Les choses ne durent pas. Il y a une impermanence des choses dans ce monde. Si je m'attache, je souffre. Nous reviendrons à cette étape de détachement nécessaire pour éviter la souffrance. Donc, le bouddhiste n'a pas de credo. Il va s'adapter quand il va être transporté dans différentes régions et différents pays. Il va s'adapter aux coutumes locales. Le bouddhisme tibétain et japonais sont très différents. En Chine, le bouddhisme va trouver Confucius avec une organisation de la société et le taoïsme. Ce mariage entre les missionnaires du bouddhisme et le taoïsme va donner le shana au premier millénaire de notre ère. Ensuite, au Japon, ça donnera le zenna. Au Japon, c'est l'expérience du Bouddha retravaillée par la rencontre avec le Tao. Au Moyen-Âge, à l'époque de François d'Assise, le moine Dogen séjourne en Chine et il va aussi participer à introduire le zen. Ce qui caractérise cette tradition, c'est qu'elle n'a pas d'écriture. La transmission se fait par la pratique. C'est une tradition de sagesse. Donc, nous voici au Japon avec le zen. Son origine, il tient son origine de la grande matrice d'exercice qui a précédé avec le yoga. C'est une immense famille qui a débuté en Inde il y a plusieurs milliers d'années. Les langues européennes ont la même origine que le sanskrit, les langues indo-européennes. Et le yoga a une racine commune avec le français, le jou par exemple, où ce sont deux animaux de trait qui conjuguent leurs forces pour tirer donc un chargement. Le yoga, c'est donc un outil pour réunir ce qui est divisé, une pratique pour réunir ce qui est divisé. Sur ce principe, chacun peut trouver aussi sa pratique du yoga. Peut-être le yoga de la vaisselle, par exemple. En même temps que nettoyer les assiettes, on se nettoie soi-même. Donc on va s'arrêter le dhyana yoga, il y a plusieurs sortes de yoga. C'est le yoga de la méditation, dhyā, D-H-Y-A en sanskrit, qui est repris dans dhyā en positif avec dialogue en français, On va donc essayer par le langage de rejoindre l'autre, mais aussi en français, il est repris en négatif avec le mot diable, diabolos, celui qui sépare. Alors voilà, on arrive au zen. Le problème, c'est que normalement, le zen, ça ne s'enseigne pas. C'est une pratique, une expérience.
Salut.
Bon, c'est
merci.
Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre le vendredi.
Ça, c'est de la pub, hein. Voilà.
Alors, on va commencer par le zazen, qui consiste à s'asseoir simplement, sans but ni esprit de profit, dans une posture de pleine présence, de plein accueil. Cette assise désintéressée est appelée zazen, za signifiant s'asseoir, et zen, méditation, présence, concentration. L'enseignement de la posture, qui est transmission de l'essence du zen, a lieu dans un dojo par un maître. Et comme je vous le disais, le zen ne peut être enfermé dans un concept ni rendu par la pensée. Il demande à être pratiqué. C'est essentiellement une expérience. L'intelligence n'est pas sous-estimée, seulement on recherche une plus haute dimension de la conscience. En ne stagnant pas sur une vision unilatérale des êtres et des choses. Il s'agit donc de réaliser, par cette pratique, le dépassement de toutes les contradictions, de toutes les formes de pensée. Ici et maintenant, c'est une notion clé. L'important est le présent. Il convient d'être complètement présent donc, dans cette méditation zazen. Il dépasse donc toutes les contradictions, comme je l'ai dit, thèse, antithèse, synthèse. Il dépasse aussi l'espace-temps. Et par cette pratique quotidienne, il va provoquer une révolution intérieure, une mutation de l'être. Il est très efficace, pratiqué quotidiennement, pour l'élargissement de la conscience et le développement de l'intuition. Comme il est sans objet, il est simplement présence à la posture, la respiration et l'attitude de l'esprit. On va retrouver tout cela chez Graf Durkheim tout à l'heure. Le problème, c'est que notre monde moderne donne une place prépondérante à notre esprit objectivant, à notre intelligence conceptuelle. Il n'est aucunement question de nier son utilité et son efficacité. Sans cet esprit objectivant, il n'y aurait pas eu le développement des sciences et des techniques. Mais s'il prend toute la place, nous sommes aveuglés et nous ne voyons plus ce qu'il y a derrière et nous pouvons nous immobiliser dans une posture fausse. Petit exemple avec le bourdon. Si nous suivons les études scientifiques, selon les lois de l'aérodynamique, le bourdon ne peut pas voler. Le rapport mathématique entre sa tête trop grande et ses ailes trop petites l'empêche de soutenir son corps en l'air. Mais le bourdon ne le sait pas. C'est pourquoi il vole. Alors s'amusait Igor Sikorsky, un pionnier russo-américain de l'aviation, inventeur de l'hélicoptère. Cet homme a développé la théorie de ce qu'il nommait le pouvoir de l'ignorance. Voilà, parce que nous, si nous étions des bourdons, nous aurions d'abord réfléchi avant de nous élancer dans l'air. Et en toute logique, d'après les lois qu'on avait établies, nous serions restés prudemment plaqués au sol, puisqu'il nous est techniquement impossible de voler. Nous aurions littéralement été prisonniers de notre cadre de pensée. Essayez de ne pas s'acharner à tout comprendre, à tout contrôler, est le seul moyen de rendre à la réalité son souffle, son rythme, sa démesure salutaire, sa créativité, nous dit Fabrice Midal dans son livre « Foutez-vous la paix ». Je vais un tout petit peu insister sur la posture du zen, puisque Graf Durkheim va reprendre la méditation dans son centre comme thérapie initiatique et thérapie de soins. Donc vous allez voir que dans la posture du zen, il n'y a pas une parcelle du corps qui échappe à la méditation. Donc, assis au centre du zafu, c'est un coussin rond, on croise les jambes en lotus ou en demi-lotus. Il convient d'appuyer fortement sur le sol avec les genoux. Dans la position du lotus, les pieds pressent sur chaque cuisse des zones comprenant des points d'acupuncture importants correspondant aux méridiens du foie, de la vésicule et du rein. Le bassin est basculé en avant, au niveau de la cinquième lombaire, la colonne vertébrale bien cambrée, le dos droit. On pousse la terre avec les genoux et on pousse le ciel avec la tête. Le menton est rentré et par là la nuque redressée, le ventre est détendu, le nez est à la verticale du nombril et on est comme un arc tendu dont la flèche serait l'esprit. On pose la main gauche dans la main droite, paume vers le ciel contre l'abdomen, les pouces en contact avec leur extrémité, maintenus horizontaux par une légère tension, ne dessinant ni montagne ni vallée. Les épaules tombent naturellement, comme effacées et rejetées en arrière. La pointe de la langue touche le palais. Les yeux restent ouverts. Dans la méditation, on n'est ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Le regard est baissé à 1,5 mètre environ. On évite de fixer un point. On accommode au-delà du sol comme on regarde un paysage. Je suis chez moi et présent au monde. La respiration joue un rôle primordial. L'être vivant respire. Au commencement est le souffle. Si l'on est présent à une expiration douce, longue et profonde, l'attention rassemblée sur la posture, l'inspiration va venir tout naturellement. L'air est rejeté lentement et silencieusement. Et la poussée due à l'inspiration descend puissamment dans le ventre, où on pousse sur les intestins, provoquant ainsi un salutaire massage des organes internes. La respiration juste ne peut surgir que d'une posture correcte et juste. De même, l'attitude de l'esprit découle naturellement d'une profonde présence sur la posture physique et la respiration. L'exercice du souffle juste permet de neutraliser les niveaux de pour maîtriser les instincts et les passions et permet de contrôler l'activité mentale. Le cortex se repose, le flux conscient des pensées est arrêté, tandis que le sang afflue vers les couches profondes. Mieux irriguée, elle s'éveille d'un demi-sommeil et leur activité donne une impression de bien-être, de sérénité, de calme, proche du sommeil profond, mais en plein éveil. Le cerveau primitif est en pleine activité. On est réceptif, attentif, au plus haut point, à travers chacune des cellules du corps. Les peuples dits primitifs ont conservé un cerveau profond très actif. En développant notre type de civilisation, Nous avons éduqué, affiné, complexifié l'intellect et perdu la force, l'intuition, la sagesse liée au noyau interne du cerveau. L'homme, en pratiquant Zazen, peut accéder à la condition normale du corps et de l'esprit, qui sont un, en saisissant l'existence à sa racine, à main nue. On va laisser donc les images, les pensées, les formations mentales surgissant de l'inconscient passer comme des nuages dans le ciel, sans s'y opposer, sans s'y accrocher. On arrive à l'inconscient profond, sans pensée, au-delà de toute pensée. Le zen très simple est en même temps bien difficile à comprendre. C'est affaire d'efforts, de répétition, de sérieux comme dans la vie. Donc, assis sans affaire, sans but, ni esprit de profit, si votre posture, votre respiration et l'attitude de votre esprit sont en harmonie, vous avez la nature de Bouddha. On peut distinguer deux zen, le zen soto et le zen rizai. Le zen rizai, simplement, dans le zen rizai, le maître va donner à son disciple ce qu'on appelle des koans. C'est des choses, je vais vous en donner un par exemple. Quel était ton visage avant la naissance de tes parents? Donc le disciple repart. Il a du grain à moudre, en quelque sorte, pour casser sa logique. Voilà. Bah, je vais vous raconter, alors voilà, puisque le zen ne s'enseigne pas, je vais vous raconter un petit conte. Voilà, c'est un samouraï qui se présente devant le maître zen et qui lui demande: y a-t-il réellement un paradis et un enfer? Qui es-tu? Demanda le maître. Je suis un samouraï. Toi? Un guerrier? S'exclama le maître. Mais regarde-toi. Quel seigneur voudrait t'avoir à son service? Tu as même l'air d'un mendiant. La colère s'empara du samouraï. Il saisit son sabre et dégaina. Le maître poursuivit. Ah bon? Tu as même un sabre? Mais tu es sûrement trop maladroit pour me couper la tête. Hors de lui, le samouraï leva son sabre, prêt à frapper le maître. À ce moment-là, le maître dit: ici s'ouvrent les portes de l'enfer. Surpris par la tranquille assurance du moine, le samouraï rengaina et s'inclina. Ici s'ouvrent les portes du paradis, dit alors le maître. Voilà, donc nous sommes souvent profondément ensommeillés et le rôle du maître et de l'exercice va créer une situation dans le corps qui va favoriser l'éveil. Voilà, j'ai eu cette petite image que j'ai lue là dernièrement. C'est comme si nous grimpions dans un arbre entouré de champs d'oiseaux avec des boules qui est. Alors, l'intérêt, c'est qu'en observant nos émotions et nos pensées pendant la méditation zazen, nous pouvons devenir conscients de quelque chose en nous qui n'est pas ces émotions et ces pensées. Si j'observe quelque chose, je suis différent et distinct de ce que j'observe. Il y a donc quelque chose en moi qui est toujours parfaitement détaché, tranquille et serein. Quelque chose qui n'est jamais irrité par quoi que ce soit, jamais abattu ni accablé, comme un lac profond sans fond. Donc, on peut déjà esquisser que par cette pratique du zazen, qui va faire que j'ai le corps immobile, que je me pose dans ma vie, ce qui n'est pas rien, dans notre vie agitée, que je laisse venir ce qui passe dans mon esprit, peu à peu, j'ai une chance déjà de voir ce que je peux fuir dans ma vie active, dans mes activités diverses et variées de la journée. On va le retrouver avec la comparaison que va évoquer Graf Durkheim avec Madame Jeanne Dupont. J'espère que personne n'a ce prénom et ce nom ici. Non. Alors, on va passer à Maître Eckhart. Bon. Qui est un mystique rénan, à peu près à la même époque que ses disciples Suzeau et Kohler. Donc plusieurs siècles nous séparent de Maître Eckhart, qui est né, semble-t-il, en 1260 et mort en 1328. Il vécut dans un monde de bouleversements et de bruit. Il naquit dans un village de Thuringe du nom de Hochstein. Il est à cheval entre plusieurs pays, plusieurs cultures. Il puisa des sources diverses et variées. Il occupe d'importantes responsabilités. Il parcourt en tous sens de vastes contrées, des Flandres à l'Italie, de Paris à la Bohême, des pays du Rhin à l'Aquitaine. C'est un dominicain. Il fut à la fois théologien, pasteur, philosophe, poète, pédagogue. Qu'il s'agit de son œuvre latine, rédigée dans le cadre de son enseignement universitaire parisien, ou bien de son œuvre allemande, rédigée en moyen haut allemand, et destinée à l'accompagnement spirituel des communautés dans la vallée du Rhin, tous ces textes essayent de rendre compte d'une même expérience. L'expérience d'une rencontre avec celui qui est plus intime que l'intime de moi-même. Pour Maître Eckhart, la souffrance des hommes est le symptôme de leur dualité. Si les hommes souffrent, quoi qu'ils puissent dire de leur souffrance, les causes de cette souffrance, c'est toujours parce que leur être extérieur emprisonne, voile, englue, déforme leur être intérieur, caché à leurs propres yeux, leur propre conscience. L'homme extérieur, c'est l'homme dans son existence moderne. C'est un homme qui occupe telle fonction sociale, qui agit, poursuit des objectifs, réalise une œuvre, jouit des créatures. Et l'homme intérieur, c'est l'homme dans son essence divine, dans son essence incréée, dans son fond sans fond, au-delà des images et des représentations. Un fond sans fond qui se trouve dans la ténèbre de l'inconnaissance. Il existe donc en l'homme quelque chose qui fait de lui un être irréductible aux diverses manifestations extérieures, à la vie affective et rationnelle, à toutes les conditions extérieures. Je ne peux entrer en contact avec ce fond par la connaissance objective. Ce fond sans fond est inobjectivable, indisponible et insaisissable par cette connaissance-là et par mon intelligence. On va rejoindre le zen et la découverte de Siddhartha. C'est par le détachement, le délaissement, que je peux entrevoir ce puits profond, obstrué par des gravats dont parlait Étienne Issoum. Il faut que je fasse comme un sculpteur qui enlève, qui creuse, qui ôte, qui retranche de la matière afin de faire apparaître la sculpture. Je dois faire de la même façon, ôter, dépasser ces représentations de moi-même qui font obstacle à mon être intérieur, à mon être essentiel, comme le dit Graf Durkheim. Maître Eckhart dit, chaque fois que tu te trouves et que tu te dis, je suis celui-ci, je suis celle-là, laisse-toi et reprends ta route. Il n'y a rien de négatif par rapport à ce que tu trouves, mais ne t'arrête pas là. Tu es plus que tous les ceci et les cela. Il y a un potentiel de libération formidable dans cette approche. Il dira aussi, Tu as pu commettre tous les crimes sur la terre. Aujourd'hui, 26 septembre, tu décides d'être un homme bon. Ben c'est parfait, tel tu es, tel on te prend, tel on t'accueille. Donc, il peut s'agir de traits psychologiques, d'identité professionnelle ou religieuse, d'histoire du passé, de filiation. Laisse tout cela, dit Maître Eckhart, et va plus loin. Donc, toute sa pédagogie, c'est de libérer l'homme intérieur de l'emprise de cet homme extérieur. Alors, Éric Mangin va utiliser l'expression de l'intime, qui est spécialiste de Maître Eckhart. Et il va dire que c'est une notion importante dans son anthropologie spirituelle. Avec cette notion d'intime, il est possible, à travers elle, de relire l'ensemble de l'œuvre de Maître Eckhart et d'envisager l'expérience du détachement, qui est l'axe central de sa pensée. Le mot intime est la traduction du latin intimus, le superlatif de interior. Voilà, je ne vous dis pas les mots allemands parce que je ne sais pas les prononcer. L'intime peut aussi se définir comme ce qui est le plus intérieur. Maître Eckhart utilisera aussi des expressions comme le plus élevé, le plus profond, le fond sans fond, le ground et l'abîme. L'intime indique quelque chose d'inappropriable, un espace sans espace, un abîme sans fond, dans lequel il faut plonger comme dans un océan infini. La solitude intérieure de l'intime n'est pas une forme d'isolement. Mais quand on est dans ce fond sans fond, dans cet intime, on a un autre type de relation aux autres et au monde. Cet intime est à la fois distance et proximité. Si je suis dans ce creux de l'intime, toutes choses nous sont proches. Et on n'est jamais seul dans l'intime. L'intime, ce n'est pas l'intimité. L'intimité, au contraire, désigne le fait d'être chez soi, renfermé à l'intérieur de son propre moi. Au contraire, dans l'intime, qui est un lieu et qui instaure des liens, nul n'est chez lui. On est en proximité avec toute chose et ouvert sur le monde. Donc, il nous faut donc abandonner tout ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire je ne suis pas mes émotions, mes pensées, ma fonction sociale, enfin en tous les cas, je ne suis pas que ça, pour manifester un peu mieux ce qu'on est. Donc je reprécise que Maître Eckhart ne vise aucunement l'extinction des forces et des capacités personnelles, pas plus qu'une contrainte imposée aux appétits de vie. Au contraire, lorsqu'on se retrouve enraciné dans ce fond sans fond, il n'est plus de limite au désir. Ce chemin n'est jamais unique, et cependant la perspective est toujours la même, aller toujours plus loin dans ce travail de libération intérieure. On pourrait dire que c'est mourir à ce que je ne suis pas, naître et percer dans ce fond, mais ce sont les différents aspects d'une même expérience qui est vécue au même moment. C'est-à-dire, dès que je suis dans ce fond, je suis dans la vie. Et l'existence ordinaire, à ce moment-là, devient le lieu où l'homme peut se réaliser dans son être essentiel et se constituer comme sujet. C'est donc dans la vie quotidienne, dans les tâches les plus simples et parfois les plus ingrates, on peut penser à ce que nous disait tout à l'heure Graf Durkheim quand il posait la main sur le bois de la table. On peut dire que c'est une tâche ingrate, mais c'est quelque chose de simple. Et donc, c'est dans cette vie quotidienne, dans les tâches les plus simples, que nous expérimentons la vie la plus noble, si nous sommes enracinés dans ce fond. Une action authentique, elle va surgir avec une spontanéité intuitive à partir de ce fond. Et elle est sans pourquoi. ce fond sans fond ne connaît ni ambition, ni but, pas même celui de se connaître soi-même. Il demeure libre, calme, ouvert et réceptif à la réalité du moment présent. On peut aussi penser à ce qu'a pu ressentir Graf Durkheim quand il avait la mort quotidienne à ses côtés avec ses soldats et que pourtant il parlait d'une vie extraordinaire. Donc, entrer dans ce détachement, c'est changer mon rapport aux choses et au monde et aux personnes. Je vais pouvoir vivre les choses, vivre les événements, sans m'y engloutir, sans m'y arrêter, sans me figer. Donc, il ne s'agit donc pas de partir au désert, et il s'agit par le détachement de naître à une autre attitude par rapport aux choses et aux êtres. Et le détachement et les fruits ne sont pas vécus comme des étapes successives, c'est deux faces d'une même pièce de monnaie. Si, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit exercice où je termine par ce qu'il avait entendu et qui a permis à Graf Durkheim de vivre sa première expérience de l'être. Je peux vous lire oui.
Oui, oui.
Alors, le Tao Te Ching est un ensemble de poèmes philosophiques et spirituels rédigés par Lao Tzu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le Tao Te Ching décrit le Tao et son caractère vide. Ce vide ou cette vacuité n'est pas celui du néant, mais bien celui de l'amour, cette force qui crée et relie toutes choses. Le Tao est invisible. Pour bien le comprendre, il faut donc ouvrir sa conscience, ce qui fait dire que le Tao et la conscience sont synonymes. Donc voilà ce qu'a entendu Graf Durkheim à la lecture de sa future épouse, quand sa future épouse a lu ce passage. Nous joignons des rayons pour en faire une roue. Mais c'est le vide du moyeu qui permet au chariot d'avancer. Nous modelons de l'argile pour en faire un vase. Mais c'est le vide au-dedans qui retient ce que nous y versons. Nous clouons du bois pour en faire une maison. Mais c'est l'espace intérieur qui la rend habitable. Nous travaillons avec l'être, mais c'est du non-être dont nous avons l'usage. C'est par le vide du Tao que les choses trouvent leur raison d'être. Sans le vide, la matière ne serait que chaos. Nous pensons être, mais nous n'existons qu'à travers le tout. Nous ne voyons que la manifestation, mais c'est le vide du Tao qui fonde l'univers. Et je vais rappeler ce que disait aussi Martin Buber dans son livre Le chemin de l'homme. Pourquoi faire retour sur moi-même? Pourquoi embrasser ma vie particulière? Pourquoi unifier mon être? Sa réponse, pas pour moi. Dans la vie, commencer par soi-même, mais non finir par soi. Se prendre pour point de départ, mais non pour but. Se connaître, mais non se préoccuper de soi. Donc on a parlé de l'être essentiel, on a vu aussi que Maître Eckhart évoquait le fond sans fond. C'est la même façon d'y arriver par le détachement. Et Camus dira, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Et Fabrice Vidal va commenter cette phrase de Camus, par une expérience qu'il a vécue avec sa grand-mère. On essaiera d'être très attentif, parce que ce qu'il va vivre, c'est un peu comme une méditation de la vie courante, quoi. J'ai oublié de vous dire qu'il y a la méditation de tous les jours, c'est-à-dire j'épluche mes carottes, je ne suis pas en train de téléphoner en même temps ou de regarder la télévision, je suis présente à ce que je fais. Ça, c'est la méditation de tous les jours, la méditation de l'homme ordinaire dans la vie ordinaire. Quand je marche, je marche. Quand je regarde un paysage, je regarde un paysage. Et puis on a zazen, donc la méditation assise. Ma grand-mère vivait ses dernières heures. La famille est là, la situation est lourde. Chaque fois qu'un membre de la famille entre dans la pièce, il en sort accablé. J'entre à mon tour dans la chambre avec appréhension. Chose importante, je prends le temps de m'asseoir et de rester là avec ma grand-mère. À ma propre surprise, ce que j'éprouve, c'est la bonté de ma grand-mère qui m'a accompagnée tout au long de mon enfance. Je suis restée toute la journée dans la pièce, baignée dans une paix profonde et poignante, avec le vif sentiment que je la soutenais dans l'épreuve qu'elle vivait. Bien sûr, j'étais très triste, mais je sentais, au milieu de cet hiver, la beauté de l'amour dans lequel elle n'avait cessé de me baigner. Cet amour m'apparaissait même avec une intensité particulièrement poignante. Ce moment a été l'un des plus importants de ma vie. Il m'a donné une force et une confiance qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Donc on voit que cette expérience douloureuse peut être vécue aussi sur un autre plan. Quand on essaye la méditation, d'être dans la méditation, d'être vraiment en prise avec le réel, ce que le réel nous offre, nous donne à vivre. Je continue un tout petit peu, avant le arabe, on fera un exercice. Oui. Donc, le mot existentiel chez Durkheim est l'être essentiel. En philosophie, essentiel s'oppose à accidentel, ce qui va et vient. Donc, l'homme existentiel cherche et trouve la force de vivre, ainsi que la sécurité dans ce qu'il sait, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il peut réaliser. Il a besoin de l'autre, de la communauté, pour se sentir exister. Et une fois adulte, s'il n'est plus en contact avec cet être essentiel, il va chercher à l'extérieur ce qu'il ne peut plus sentir à l'intérieur de lui-même. Il est coupé de son intérieur, de son intériorité. Il va chercher la sécurité, donc dans la réussite, le pouvoir et la richesse. Il y a une façon de consommer, et par voie de conséquence, de consumer la vie. Il y a aussi une autre façon de vivre, c'est de communier quoi, à la vie. Je vais peut-être vous laisser comme ça. Donc, Madame Jeanne Dupont, voilà, Madame Dupont, elle est née en France, à Angers, en 67, de parents commerçants. Je ne peux pas changer ça, quoi. Ses grands-parents étaient italiens. Elle va donc apprendre l'italien au lycée. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle s'investit beaucoup dans des activités périscolaires. Sa fonction, ses investissements familiaux et sociaux lui donnent un sentiment de sécurité, d'appartenance. C'est très bien, ça lui permet de se sentir utile. Ça la valorise et lui confère une sorte de permanence. On pourrait dire, en tous les cas c'est ce que dit Graf Durkheim, que c'est son corps de destin qui la maintient telle qu'elle est dans sa vie actuelle. Mais Jeanne, elle est au-delà du destin. Elle est tout autant cachée que réalisée par ses différents rôles, ses différentes fonctions, familiales et sociales. Jeanne est en évolution permanente. Elle n'est pas contingente. Donc, une perte peut survenir dans la vie de cette Madame Dupont. Et d'un seul coup, la vie qu'elle menait jusque-là n'est plus possible. Ça peut être la perte d'un conjoint, la perte de son travail. Des pans entiers de son existence disparaissent. Elle va donc se trouver dans le pâtir, ce qui est autre chose que quand je décide de m'inscrire à telle session pour approfondir telle chose. C'est toujours moi qui choisis, qui décide. Là, elle n'a rien choisi. Elle est dans le pâtir, le souffrir. Elle n'a pas choisi de vivre cette perte. Et à ce moment-là, peut venir la question « Qui suis-je à présent ?» se demande-t-elle. Elle va traverser donc une crise d'existence. Et bon, il va falloir qu'elle trouve soit un thérapeute, elle peut aussi tenir un journal, elle peut aussi pratiquer la méditation. Et donc, peu à peu, elle va redonner la parole à cette Jeanne. Et une fois qu'elle a ouvert la porte, à cette Jeanne, c'est son intériorité, elle ne peut plus mettre le couvercle dessus. Quoi. Jeanne va pouvoir exprimer ses désirs, ses souhaits, ses regrets par rapport à certaines choses vécues. Là, Jeanne peut retrouver, comment dire, de l'existence à la suite d'une perte, et ça peut être aussi à la suite d'une rencontre fortuite avec une ancienne amie d'enfance, qu'on rencontre au bout de 20 ou 30 ans, et qui a mené une vie complètement différente de la nôtre. Et tout d'un coup, en l'écoutant, on se dit, bah tiens, ma vie, elle aurait pu être autre aussi. J'aurais pu choisir, m'orienter dans cette direction. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Ça peut être aussi un ancien amour de jeunesse, quoi. Donc, ce qui est très important, et ce qui va être très présent dans le centre... que Durkheim a créé avec Maria Hippius, c'est que cheminer vers son intériorité, c'est la même chose qu'être en chemin vers l'être essentiel. Je ne peux pas rencontrer l'être essentiel si je suis pas en chemin vers mon intériorité. Donc cet être essentiel doit être cherché d'abord et avant tout dans le cœur de l'homme. En moi, dans mon intériorité. Si nous ne le trouvons pas là, nous ne le trouverons nulle part ailleurs. Si nous le trouvons là, nous ne pouvons plus le perdre. La vie spirituelle n'a d'importance que si on la met en relation avec ce qui se passe en nous. Alors, Durkheim dit, même les gens qui n'en savent rien sont eux-mêmes enracinés et ont une vie intérieure. Il va parler, c'est important qu'on retrouve cette Jeanne, qu'on soit en lien avec elle, parce que c'est un petit peu comme être dans sa maison, retrouver quelque chose de stable. Et dans la méditation zazen, les trois coups de gong au début de la méditation signifient « rentre dans ta maison, rentre chez toi, rentre dans ton intériorité ». L'ombre, je ne vais pas trop m'attarder, il a beaucoup lu et étudié Jung, donc par ailleurs, je lisais avec donc une personne qui pratique la méditation que l'ombre, finalement, n'est que de la lumière refoulée. C'est la lumière qui rencontre un obstacle. Donc, ces obstacles, eh bien, c'est peut-être nous qui avons du mal à à leur donner un peu le devant de la scène, à les mettre, les laisser advenir. Et donc, on revient toujours à la méditation dans ma vie courante, et la méditation zazen, où je suis assise en silence, sans bouger, en laissant passer mes pensées, indubitablement, des choses vont arriver que j'avais oubliées, dont je n'avais pas conscience, et qui vont se présentifier, qui être présents à moi, et ensuite ça va ouvrir d'autres espaces où je vais pouvoir continuer ce chemin en profondeur. Donc, si j'ai bien compris, nous souhaitons souvent briller aux yeux des autres, aux yeux de la société, et c'est bien aussi, hein. En quelque sorte réaliser une belle image de nous-mêmes. Mais quelquefois, si cette image prend toute la place, ça risque de nous poser des problèmes. Et c'est ainsi que jour après jour se forme l'ombre, c'est-à-dire l'ensemble des impulsions et de nos réactions naturelles auxquelles nous avons renoncé pour laisser toute la place à cette belle image de nous-mêmes. Un loup se cache parfois en chaque homme derrière l'apparence d'un gentil mouton blanc. Il va nous falloir nous coltiner avec ce qui nous freine, avec peut-être un petit peu cette façon d'être. Quel est l'intérêt d'une telle confrontation avec l'ombre? Alors pour Jung, il s'agit de retrouver ces énergies refoulées, ces potentialités qui deviennent noires que parce qu'elles sont refoulées. Afin d'intégrer l'ombre, il me faut reconnaître l'ombre. Cela me met en mouvement par un travail intérieur, hein, et qui peut aussi passer par la tenue d'un journal, aller voir un thérapeute. Donc, que faut-il faire? Il faut tout d'abord savourer la situation telle qu'elle est. Et on en revient au zen, voir la réalité telle qu'elle est. On va devoir voir et accepter l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir céder aux agressions ou à la violence qui peut être présente. Nous devons reconnaître et accepter qu'on est plein de désirs, qu'on est plein d'agressivité. Et ne pas dire moi, ah non, mais ça n'arrive jamais. Et l'ombre, une fois reconnue, ça va déjà permettre un chemin. On va pouvoir avancer de quelques pas. Donc, essayer de se donner la peine d'intégrer cette partie de nous-mêmes qui reste dans l'ombre. Sans quoi, dira Durkheim, vous serez toujours celui qui jette les yeux vers le ciel, qui peut-être même joue au saint, ce qui est insupportable pour les autres, parce qu'en vérité, ils ont devant eux un homme frustré. C'est toujours un peu ombrageux, hein, ce que je vous ai dit. Merci. Alors, il va parler beaucoup du corps, une importance primordiale chez Graf Durkheim, c'est le corps, la position du corps. Et dans la méditation, le zazen, vous avez vu que la position est très codifiée, et apparemment à juste titre. Donc lui, il va parler du corps que l'on a et du corps que l'on est. Le corps que l'on a, c'est la nature humaine. Moi, je fais 1m60, je pèse 52 kilos, voilà. Bon, le corps que l'on est, c'est la nature divine. Cette distinction, c'est peut-être intéressant de préciser qu'elle peut être liée à la langue allemande. Elle n'existe pas en français. En allemand, il y a le mot « Leib » pour le corps que l'on est. Et d'ailleurs, un maître de vie, un maître zen, il y aura le mot « Leib » dedans, maître de vie. Et le mot corpeur pour le corps que l'on a. Les philosophes de la nature du XVIIIe et XIXe siècle insistaient beaucoup sur ce point. Mais Durkheim confie ne pas avoir été influencé par ces philosophes. Il a retrouvé lui-même, au fil de ses expériences cette notion. Et il insistera beaucoup sur le corps que l'on a, il faut nous en préoccuper, le soigner s'il est fatigué. Nous ne vivons pas dans l'abstraction, mais cela ne serait pas juste de l'entretenir et de le soigner sans être conscient du corps que l'on est. À la limite, cela deviendrait absurde. Notre destinée n'est-elle pas de perdre un jour le corps que l'on a ? Un dérapage peut se produire en donnant une valeur disproportionnée donc au corps que l'on a. Bon, on va se mettre debout. Parce qu'on va, essayer d'expérimenter le hara, le centre de l'être. Alors, le hara, pour Durkheim, c'est la chance pour l'homme de retrouver la force qu'il est au plus profond de lui-même. Alors, l'aspect spirituel de cette ouverture au hara, c'est de reconnaître que l'homme est beaucoup plus que la force qu'il a. Alors, tenons-nous debout. Fermons les yeux. Écoutons ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Écoutons ce va-et-vient qu'on appelle respiration. On va essayer de profiter de l'expiration pour se lâcher dans nos épaules. Attention, Durkheim ne dit pas « lâchez vos épaules », mais « lâchez-vous dans vos épaules » sur l'expiration. On peut prendre l'image qu'il s'agit de se laisser tomber dans son assiette. Alors, si on profite de l'expiration et en mettant un petit temps de pause à la fin de l'expiration, on va sentir qu'il est possible de nous enraciner dans notre bassin, avec les pieds bien ancrés sur le sol. On expire lentement, doucement. On marque un temps d'arrêt. Et on laisse venir l'inspiration. Seule. Elle doit venir toute seule. On se laisse inspirer en quelque sorte. Maintenant, tout en restant dans notre respiration, inspire, expire, on va laisser sortir le bas-ventre. C'est contraire au canon de la beauté. Mais on va lâcher prise dans le bas-ventre. On va même le gonfler un petit peu. Comme si on repoussait le poing de quelqu'un avec une bonne contraction musculaire. Et c'est la partie de notre corps qui est la plus forte et en même temps une des plus inconscientes. Et c'est ce que Graf Durkheim va appeler le hara. Si on est bien dans notre assiette et qu'au niveau de la sangle abdominale, on la sent bien, il va être très difficile que quelqu'un puisse nous renverser. et continuer l'exercice assis. Alors pour Durkheim, les épaules, c'est vraiment l'homme qui cherche à se tenir droit, avoir une bonne posture, mais son moi est dans ses épaules. Donc on va essayer d'osciller de gauche à droite avec une amplitude des mouvements qui devient de plus en plus grande, toujours en pensant à respirer, comme on l'a fait tout à l'heure. Et ensuite, on revient en réduisant l'amplitude de notre oscillation. Quand on est parvenu, on va le faire en avant, en arrière. Même principe, j'amplifie chaque fois mes mouvements, je rends continuellement bien à respirer. Puis je diminue l'amplitude. Maintenant, vous devez peut-être avoir un peu plus conscience de ce hara. Jean, tu peux peut-être apporter quelque
chose. Ouais, tu me prends. Non, je t'écoute.
Les maîtres japonais parle du hara comme étant le lieu de la rencontre des forces du ciel et des forces de la terre. Et dans le zazen, on est ancré dans le sol jusqu'au niveau du bassin, enraciné dans le sol, on est tiré avec la tête par le ciel. Donc on retrouve bien, on est bien, le hara, il est bien ce centre, le lieu de la rencontre de ces forces du ciel et de la terre. On dit aussi, dans la tradition des arts martiaux, que si vous êtes au centre de vous-même, vous êtes au centre de l'univers. C'est le point de croisement de la verticale et de l'horizontale. Et le sacrum, c'est cette région sacro-lombaire qui est le mur postérieur du hara, du bassin. Le sacrum, pour se représenter, c'est comme l'autel qui a permis à l'homme de passer de la nature à la culture. C'est l'axe autour duquel l'homme a pivoté afin de passer de l'horizontale, le monde animal, à la verticale. S'asseoir dans ce centre nous donne une position, une respiration juste. Si on est dans notre hara, on reste ouvert aux forces de l'être. Et on se trouve libéré de son petit moi, entre guillemets. Libéré du désir de dominer, de la crainte, de la souffrance, de la volonté. S'ancrer dans ce centre, ça nous maintient d'aplomb. Si on oublie de se tenir dans le hara, nous renonçons à la présence de notre personne. Durkheim dira, dans ma pratique de la personal led therapy, je rencontre chaque jour des personnes qui souffrent du bas du dos, de la charnière lombo-sacrée. Et je vois de plus en plus dans cette souffrance les séquelles d'un conflit entre nature et culture, instinct et raison. Le travail du hara a pour sens d'harmoniser la relation entre ces dieux de la terre et ces dieux du ciel. Et donc dans la respiration, ce qui est important, c'est d'essayer. Alors la respiration, c'est, il va le dire aussi, y mettre du zen aussi, c'est meurs et deviens. À chaque respiration, je meurs et je deviens autre. Je meurs et je deviens. C'est le principe du vivant. Et si on est en bonne position, on se sent plutôt respirer que respirant. Je peux continuer ?
T'as encore 10 minutes ?
Oui, j'en ai pas pour longtemps.
On se dit encore 10 minutes, ça te va ?
Lorsque j'ai, alors c'est Durkan qui parle, lorsque j'ai posé les bases de ma thérapie initiatique, je suis partie des trois détresses de l'homme. Ce qui pour l'homme peut représenter une des plus grandes détresses, accepter l'inacceptable. Alors, la première détresse pour lui, c'est l'annihilation, qui est le contraire de la force de vie, de vivre, et qui met fin à la vie. La deuxième, c'est la rencontre avec l'absurde, qui contrarie l'ordre et le sens de la vie. Fait référence quand il a été en prison pendant 16 mois au Japon. Et l'isolement qui divise, sépare. Si l'homme n'est identifié qu'à son moi existentiel, il a besoin de mettre certaines en place, certaines thérapies, certains exercices. Alors, l'homme, cette expérience donc va le surprendre. L'homme ne peut décider par sa volonté de la faire, mais il peut essayer, comme le jardinier, de réaliser les bonnes conditions de préparation. Cette dimension transcendantale du toucher de l'être peut surgir justement de ces situations limites, de telle sorte que notre conscience brise les barrières qui sont imposées par une attitude objectivante et réductrice. Ceci ne peut avoir lieu que si l'homme réalise, en quelque sorte, de mourir à sa volonté, quoi, de mourir à ce à quoi il tient. Et donc on en revient au détachement, mourir à soi-même. Donc il évoque dans les camps de concentration, les nuits de bombardement, dans une fuite éperdue. Et beaucoup d'hommes ont fait cette expérience, ont vécu l'imminence de l'anéantissement et ont vécu aussi l'extraordinaire. La mort était déjà là, présente, et la peur. Mais brusquement, ils ont dû accepter l'inacceptable. Il leur fut donné de lâcher les défenses naturelles, de tout abandonner et de s'abandonner à l'inéluctable. Et c'est alors justement que l'incroyable peut se produire d'un seul coup. La peur disparaît et l'homme fait en lui-même l'expérience que ce que l'on appelle le toucher de l'être.
Excuse-moi, il parle là des gens dans les camps de concentration, ceux qui vivent ça, ça
me semble. Oui, qui ont fait l'expérience du toucher de l'être.
Ah oui.
Ouais. Comme lui l'a fait quand il était à Verdun sur le champ de bataille. Et il dit, c'est le calme absolu, un indicible sentiment de bonheur, une autre vie nous touche. Cette expérience peut également être faite par tout malade irrémédiablement condamné. Et les médecins qui sont attentifs à leurs malades le perçoivent très bien. Alors il parle d'un jeune soldat qui a eu donc qui a dû être amputé de deux jambes pendant la guerre. Un jeune soldat d'une trentaine d'années, donc qui est revenu amputé des deux jambes. Sa fiancée l'a laissé, tous ses projets de vie. Pendant 10 ans, il était en révolte constante. Et 10 années passées, un jour, il a pris un cahier et il a dit, écrit, c'est le premier jour de l'homme sans jambes. Sa révolte, sa souffrance étaient toujours là. Mais en même temps, il y avait une place pour qu'il puisse être cet homme sans jambes. Donc on le retrouve chez Vetrecarte, la vie c'est cette tension entre les opposés. Quoi. C'est, comment dire, la souffrance est toujours là, mais en même temps, il y a place pour autre chose.
Ça me fait penser, si je peux faire un aparté, ça me fait penser à Geneviève, se toucher de l'être par la maladie.
Ouais.
Donc Geneviève, on raconte son histoire dans le merveilleux cancer de Geneviève C. Ouais. Et donc c'est une femme qui était peut-être un peu d'un sentiment dépressif dans sa vie et qui tout d'un coup apprend qu'elle a une maladie très grave et qu'elle va mourir. Et quand elle apprend le diagnostic, sa réaction c'est d'aller acheter une bouteille de champagne et c'est là elle s'ouvre complètement à la vie. Les jours qui lui restent à vivre, elle savoure chaque jour.
Elle a une mort extraordinaire, je veux dire.
Oui.
C'est ma sœur.
Mmh. Et j'ai lu le livre.
Alors, je te coupe, Yannick.
Alors, il dit l'acceptation de l'inacceptable n'est ni de l'héroïsme, ni de la résignation, mais l'expression d'une liberté inconnue de la personne, par laquelle cette personne dépasse le champ d'expression de son moi habituel. Alors on peut toujours penser à ce fond sans fond dont parlait Maître Eckhart, à cet être essentiel qu'évoque Durkheim. Une dimension particulière qui tient dans la qualité unique et dans l'impérieuse évidence de ce qui a été vécu. Ça donne accès à une nouvelle conscience qui transforme fondamentalement l'homme, qui le libère et le rend responsable. Alors, en ce sens, c'est donc une expérience initiatique, au sens premier du terme, initiare, ouvrir la porte du mystère. C'est reste un mystère. C'est à la fois pour l'homme une promesse et un engagement, une libération et une lourde responsabilité, une source de joie et une possibilité de transformation. Et il dit que l'homme accède à ce que l'on nomme la voie, V-O-I-E, c'est-à-dire au développement de ce à quoi il est destiné. Donc, cette thérapie initiatique accompagne l'homme sur la voie qui est véritablement notre vie et notre vérité. C'est le chemin vers une disposition qui nous rend toujours plus perméables à l'être. Le problème, c'est que l'être est toujours là, les vibrations de l'être sont toujours là, mais c'est nous qui ne sommes pas là. Et qui sommes occupés, dispersés, agités. Avoir fini.
Ça va être, je conclue là.
Alors, il a donc créé au centre la LED thérapie. Il s'agit moins de nouvelles techniques thérapeutiques que d'un nouvel esprit du thérapeute. On comprend bien qu'avec ce qu'il a vécu, sa lecture de Maître Eckhart, son séjour au Japon, sa grande expérience de la méditation, on va retrouver ça dans son centre. Et dans ce qu'il a proposé aux personnes. Lorsqu'une personne vient vous voir, demandez-lui de se coucher et regardez-la respirer. Par sa façon de respirer, vous reconnaîtrez immédiatement si elle est encore proche de l'être essentiel ou éloignée de celui-ci. Votre devoir est alors, en utilisant les différentes voies qui sont à votre disposition, de la rendre à elle-même et à son être essentiel. c'est donner une chance à la grande vie de couler dans la vie quotidienne. C'est des petits préambules. Hein. Il dit aussi, j'aimerais aussi que vous compreniez que quel que soit le motif immédiat et avoué pour lequel une personne vient à Ruth, il s'agit toujours de lui permettre de faire un pas sur le chemin de la réalisation d'elle-même. En disant cela, Rav Durkheim témoignait de ce qui a caractérisé son accompagnement de tant de personnes différentes et de son infinie patience. Il a toujours été respectueux de la tradition et de l'héritage spirituel des personnes qui venaient. Donc ça va être essentiellement une thérapie par le corps. Je vais peut-être passer un peu... Si on lui demandait « Votre travail est-il chrétien ?», il disait « Non, il n'est pas chrétien, mais il n'est pas non-chrétien. » Si on lui demandait « Votre travail est-il bouddhiste ?», il disait « Non, il n'est pas bouddhiste, mais il n'est pas non-bouddhiste. » Voilà. Et il précisait « Ce qui m'intéresse chez chacun, c'est ce qui est au-delà des différences de tradition, de race, de mode de vie. » Donc, cette vie au centre de Ruth est une vie d'exercice. On peut pratiquer le zazen, le tai chi, la bioénergie ou la gestalt. Dans un premier temps, on pourrait penser que la méditation et les activités peuvent sembler s'exclure totalement. Le quotidien peut toujours nous apparaître comme le plus souvent comme un obstacle à cet être essentiel. Mais pour cheminer sur le chemin de la méditation, il faut tout d'abord maîtriser une technique. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que le judo, l'aïkido, toutes les techniques en do, ce sont des voies d'accès à une plus grande transparence de notre être. Donc c'est pour ça, maîtriser une technique, pourquoi ? Parce que comme par exemple le thé ou l'ikebana, l'art floral. Parce que tant que vous ne maîtrisez pas une technique, le moi qui doit faire attention, qui ne doit pas faire d'erreur, est toujours fortement sollicité et engagé. Mais quand je maîtrise la technique, jour après jour, on arrive à une attitude où tout va de soi-même. Si on assistait à la cérémonie du thé, tout s'enchaîne parfaitement. On est alors capable d'être disponible à une force plus profonde qui agit à notre insu. Notre attitude est nettoyée d'un moi qui jusque-là ne voulait pas se tromper. Il était fort exposé, quoi. On peut donc alors se mettre à la disposition de quelque chose de plus profond qui fait le travail pour nous, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est dans cette action quotidienne, ça peut être aussi essuyer sa vaisselle, hein, grâce à la répétition perpétuelle, que nous pouvons accéder à un état d'être nous permettant d'exercer le non-faire dans le faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne suis plus sur le qui-vive avec moi qui m'observe, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, attention, ça coule de source. Et donc, je suis dans le non-faire tout en faisant quelque chose, quoi. On peut penser que je suis ancré dans ce fond sans fond. Un non-faire dans l'action. Donc, il va redire, il n'y a pas le chemin souvent qualifié de spirituel et autre chose qui serait l'exercice. C'est l'exercice qui est le chemin spirituel.
Ça va être le mot de la fin bientôt, Yannick.
Comment ?
Enfin, tu conclus. Non, il a presque 2 heures.
Ah, vous êtes fatigué ?
Ben, oui. Non, mais je pense qu'il va falloir qu'on échange. Bon.
Alors j'arrête. Je vous laisse.
Pourquoi il est encore pour une heure ?
Non, je voulais simplement. Je voulais simplement vous dire qu'il avait mis au. Qu'il avait. Il avait. Bon. Je voulais simplement vous dire.
Il a dit beaucoup de choses en tout cas.
Oui, il y en a pour au moins une heure là. Bien parti.
Bon, je vais juste vous dire les 5 pas. Voilà, les 5 pas du thérapeute, parce que ça peut...
Comme disait le Tibétain.
Voilà. Dans sa pratique, il a mis au point 5 pas. Le premier pas, c'est la vigilance éveillée. Le thérapeute court toujours le risque, lorsqu'il rencontre une personne, de l'enfermer dans une catégorie très précise. Cet homme-là, cette femme-là, telle attitude, son problème, je le vois bien. Par cette attitude, il empêche la personne de se montrer telle qu'elle est réellement à l'instant. La vigilance éveillée évite de tomber dans ce piège. Second pas, lâcher prise ou détachement. Il s'agit d'abandonner toute idée concernant ce qu'il serait bon ou juste de faire. Comme le précise Erigel dans son livre sur le tir à l'arc, le maître avait tout le temps. Fabrice Vidal, quand il a visité sa grand-mère, il a pris le temps de s'asseoir et il est resté toute la journée. Dans le zazen, on a beaucoup de temps. Donc, tout le monde avait le temps. Ce temps, comme dans la pratique de l'assise en silence, est un allié indispensable au thérapeute. Troisième pas, l'union. Le lâcher prise a pour sens l'union avec l'autre personne. Se perdre dans la réalité de l'autre, enfin s'y retrouver aussi. Et de cette union va naître ce qui caractérise le pas suivant, c'est-à-dire le quatrième pas, la naissance du geste fructueux. C'est ici qu'intervient le geste thérapeutique, la technique juste. Ainsi Jung dit à ses disciples qu'une fois en face de leur patient, ils doivent tout oublier. Mais on ne peut oublier ce qu'on ne sait pas. Le geste thérapeutique fructueux a pour base un savoir thérapeutique. Sans celui-ci, la personal led thérapie ne sera jamais qu'un jeu dangereux entre les mains de l'apprenti sorcier. Et le cinquième pas, c'est la répétition. Cette technique, née du lâcher-prise et de l'union, doit alors être répétée, renouvelée, approfondie. Ce cinquième pas nous conduit naturellement au premier. C'est l'attitude de vigilance éveillée qui nous indiquera que maintenant c'est assez, que cette technique a fait son œuvre curative. Ce dernier mot n'est pas à prendre sur le plan de la thérapie pragmatique. Curative veut dire ouvrir la personne à son être, à sa vraie nature. Voilà, et je voulais juste terminer par une mise en garde, voilà. Vous en avez juste 2 pages. Oh. Voilà. L'idée d'un itinéraire sur ce chemin thérapeutique, sur cette voie thérapeutique, l'idée d'un itinéraire ou d'une progressivité dans la vie spirituelle est contestable dans la mesure où il convient de choisir constamment la forme du détachement la plus adaptée à ce que nous sommes. Sachant que rien n'est jamais acquis une fois pour toutes, et que l'homme doit à chaque instant réengager sa vie du fait de sa liberté. Autrement dit, il n'y a pas de capitalisation dans la vie spirituelle. Et Edith Stein, une philosophe juive en classe de philosophie avec Heidegger, allemande, devenue chrétienne puis carmélite, arrêtée en Hollande où elle s'était réfugiée en 1942 et gazée aux Juifs, dira « Je me tiens à chaque instant devant le néant, et il me faut d'instant en instant recevoir l'être toujours à nouveau comme un cadeau. » Donc il n'existe pas d'itinéraire fixe à l'avance. Ça souligne à la fois la richesse des expériences de chacun, dont il convient juste de retenir à chaque fois une exigence de radicalité, de sérieux, tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur. Et surtout, Graf Durkheim, Jacques Casterman, par rapport à l'œuvre de Durkheim, insistera beaucoup à plusieurs reprises sur le danger de l'appropriation, tout particulièrement en ce qui concerne l'œuvre de Karl Graf Durkheim. Bravo.